nous posons les mêmes questions que Jean-Baptiste. Pourquoi Jésus a-t-il voulu être baptisé? Jean-Baptiste connaissait bien Jésus, c'était son cousin. Il avait entendu par Marie elle-même, ou même par Élisabeth, les récits de l'Annonciation, de la Visitation. Il connaissait qui était Jésus. Et en même temps, un garçon, un bébé, un jeune homme, tellement comme les autres, qu'on en oublierait d'où il venait. Bien sûr, à plusieurs reprises, lors d'un pèlerinage à Jérusalem, la sainte famille de Nazareth était passée chez les cousins, 600 km de Jérusalem, peut-être même l'hospitalité, à les savoir. Alors, pourquoi tout d'un coup, Jean semble étonné? Justement, il sait que Jésus est fils de Dieu, engendré par l'Esprit. Et dès lors, pour lui, c'est la plénitude, bien sûr, pour nous aussi d'ailleurs, et il ne comprend pas la démarche de Jésus. Que vient-il faire en se mêlant dans la foule des pécheurs? Car le baptême de Jean-Baptiste, c'est celui-là. Il annonce la venue prochaine du royaume, la nécessité absolue de se convertir, même dans l'urgence. Donc il rappelle à chacun, je vais lire ses manquements, la nécessité de se recentrer sans cesse sur Dieu. Les gens reconnaissent dans la parole de Jean, précisément un appel prophétique. C'est un prophète. Il y a 200 ans qu'on avait plus eu de prophètes en Israël, et voilà la foi qui vient du désert, qui crie, je vais dire, la nécessité de faire place à Dieu. Et tout d'un coup, voilà ce qui se produit. Jésus est devant Jean-Baptiste. Jésus ne va pas répondre à la question de Baptiste. Il ne va pas argumenter, il va simplement dire « laisse faire, c'est le temps comme ça ». Sous-entendu, un jour tu comprendras, ou plus tard, nous comprendrons. Car en fait, pourquoi Jésus a-t-il voulu être baptisé? C'est avant tout un geste de communion. Comme dans le Jourdain étaient déposés tous les péchés d'un peuple en errance, ainsi Jésus se plonge lui aussi dans le Jourdain. Et le Jourdain, ce n'est pas le fleuve tranquille comme on croit, il sillonne des régions très poreuses, et dès lors il est très sablonneux, et même boueux quelque part. Jésus se plonge dans la boue humaine, comme pour la purifier. Ce n'est pas lui qui a besoin d'être purifié, c'est l'humanité. Ici, nous trouvons le visage du serviteur souffrant de la première lecture d'Isaïe. Ce serviteur proche de Dieu et qui vient porter comme toute la misère de son peuple pour le racheter, pour lui apporter, je vais dire, un au-delà du péché. C'est beau tout cela, mais entrons peut-être dans les détails. On nous dit que après le baptême de Jésus, il va se passer trois signes. Je vous en ai déjà parlé, ceux qui s'en rappellent. Bien, c'est notre baptême. Je parlais du baptême de Jésus, mais il faut le traduire sans cesse comme étant notre baptême aussi. On nous dit que le ciel s'ouvre. Autrement dit, c'est Jésus qui a quitté le ciel pour venir sur la terre. Il a fait un voyage d'abaissement. De Dieu qu'il était, il devient pleinement homme, tout en restant Dieu, bien entendu. Il est venu habiter au milieu des siens. Il a pris chair, c'est Saint Jean qui nous rappelle tout cela le jour de Noël. Voilà donc Jésus qui descend. Est-ce qu'il va rester sur la terre? Mais non. Nous savons que c'est un passage. descendu sur la terre, ce n'est pas pour nous faire quelques petites recommandations, aimez-vous, pardonnez, essayez d'être heureux, pas ça du tout. C'est, je viens vous annoncer que je vais vous montrer le sens de votre vie qui est voué à l'éternité. Par sa simple kénose, c'est un terme technique, abaissement, Jésus vient en fait relever la dignité humaine. Nous ne sommes pas seulement ce que nous pouvons, nous sommes beaucoup plus. La dignité humaine a quelque chose de divin. Dieu se fait homme pour que l'homme soit fait Dieu, nous dit saint Irénée de Lyon, deuxième siècle. Parole extraordinaire, pas Dieu comme Dieu, on le sait bien, mais Dieu par adoption. Nos frères orientaux parlent de la divinisation. Nous sommes voués à la divinisation. Nous parlerons, nous, en termes, nous sommes faits fils et filles de Dieu. Et Jésus, lorsqu'il retourne au ciel, ne peut y retourner seul. Il est le frère aîné, le fils aîné d'une multitude. Et s'il est descendu, c'est pour nous ramener tous vers le Père. Notre destinée n'est pas seulement sur la terre, elle est, la terre est un passage. Et je rappelle que le mot passage se traduit par le mot Pâques. Le chrétien est quelqu'un qui marche vers la résurrection, tout de suite, dès aujourd'hui, dès le baptême. Premier signe, il y en a deux autres. La voix se fait entendre. Elle est identifiable immédiatement. Celui-ci est mon fils, c'est donc un père qui parle. Seul un père ou une mère peut dire à quelqu'un, tu es mon fils, tu es ma fille. C'est le Père des cieux qui parle. Qui parle à Jésus. Certains théologiens, oh mon Dieu, disent, c'est à ce moment-là que Jésus a su qu'il était fils de Dieu. Il fallait que quelqu'un lui dise, parce qu'un peu distrait faisait des miracles, comme ça, on en voit, parce que ça arrive. Mais non, c'est pas ça. Croire des histoires comme ça, c'est rationaliser, humaniser dans le sens de réduire dans le sens de l'humain quelque chose, quelqu'un qui a été homme et Dieu. Jésus le savait qu'il était fils de Dieu. Il le savait à chaque instant de son existence, dans sa divinité bien sûr, mais aussi dans son humanité. Il a été éduqué comme tel, et puis le Père du ciel s'est manifesté une quantité de fois, oui, dans le secret de son cœur d'enfant, de bébé, d'adolescent. Dieu lui a parlé. Si Jésus, pendant sa vie terrestre, a tant et tant prié, c'est parce qu'il était familier de cette prière avec le Père. Autrement dit, cette voix qui se fait entendre, c'est la voix qui a été entendue à chacun de nos baptêmes. Tu es mon enfant bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. C'est chez toi que je veux déposer ma joie. Tu me réjouis, tu fais mon bonheur, le fait d'être simplement là aujourd'hui. En droit romain, on sait que quelqu'un prenait une identité, non pas de sa naissance, mais quand il était adopté par son père. C'était un rite, c'était le pater familias, plein d'autorité, énormément d'ailleurs dans la Rome antique, il y avait beaucoup d'abandon d'enfants non reconnus quelque part. Donc c'était ce rite d'adoption qui donnait l'identité à l'enfant. À partir de ce moment-là, il était le fils de, il avait tel héritage, tel bien, tel domicile, etc. Avant ça, il n'était rien. Il pouvait être abandonné, Romulus, Rémus, etc. On connaît. Tu es mon enfant bien-aimé. Et quand Dieu parle, nous savons qu'il crée et que sa parole est une parole définitive. Ce n'est pas « tu es mon enfant bien-aimé, mais essaie quand même de bien te conduire. Hein. »« Tu es mon enfant bien-aimé, mais bon, écoute, tu as trois chemins quand même. » Ah non. C'est une adoption Et à chaque endroit, quelque part, tu es mon enfant bien-aimé. Et jamais Dieu ne dira à quelqu'un, tu n'es plus mon enfant bien-aimé. Un homme peut peut-être le faire, mais Dieu pas. Il se renierait lui-même. Tu es mon enfant bien-aimé à chaque instant de ta vie. Je suis en train de te créer, de te recréer par amour à chaque instant. Imagine cette imagination qu'à chaque battement de ton cœur, si on entendait, on entendrait cette parole, je t'aime, tu es là pour moi, tu es là parce que je t'ai fait à mon image, à ma ressemblance, chaque battement du cœur, mon Dieu, on aurait de grosses têtes. Et le troisième signe, c'est celui de la colombe. Dans toutes les églises, on représente l'Esprit Saint par une colombe. Ça vient du récit précisément du baptême. Mais cherchons quand même un peu mieux à comprendre ce sens. Dans la Bible, quand on ne comprend pas un terme, on va voir dans d'autres récits où ce terme est utilisé. Et la colombe, c'est l'histoire de l'arche de Noé, bien sûr. Une longue histoire, le déluge, 40 jours, 40 nuits de pluie, puis le déluge, cette arche qui flotte pour des animaux et puis pour 8 personnes, la famille de Noé. Et puis, il ne pleut plus, que va faire Noé? Il va envoyer un corbeau, image de ténèbres qui sont encore là, peut-être des nuages encore obscurs. Le corbeau revient, il n'a pas trouvé où se poser. Il envoie ensuite une semaine plus tard. Ne comptez pas 7 jours dans votre calendrier. Dans la Bible, une semaine, c'est le temps d'une création ou d'une recréation. C'est un temps nécessaire. Il faut attendre parce que c'est Dieu qui est en train de créer. C'est Dieu qui nous précède. C'est lui qui ouvre le chemin. Voilà donc une semaine. Il envoie la colombe, elle revient avec un rameau d'olivier. Il comprend que c'est un confort timide pour tous les animaux qui sont dans son arche. Il va attendre à nouveau. Noé ne prend pas l'initiative sur le plan de Dieu. Or, que de fois il a songé, il est presque temps, il est temps qu'il se passe quelque chose. Non, rien. Dans la prière, laissons faire Dieu. Attendons le signe. Et le signe, il va renvoyer cette colombe, cette même colombe, qui ne reviendra pas. La colombe, avec le rameau d'olivier, est annonciatrice d'une bonne nouvelle extraordinaire. Voici que, par les eaux du déluge, du baptême, c'est un monde nouveau qui est créé. C'est Dieu qui a repris son œuvre de création pour la corriger, pour la rendre plus belle encore, car on dit que l'œuvre de rédemption est plus grande que l'œuvre de création. Dieu crée encore du plus beau, du meilleur, quelque chose qui était parti de la boue du sol, comme la création du premier homme. Ce signe de la colombe, une création nouvelle est partie. Est encore petite, c'est un rameau d'olivier. Il y a encore à construire, il y a encore à attendre, il y a encore à grandir. Rappelons notre baptême. Le ciel s'est ouvert pour toi. Jésus est venu te chercher, car par le baptême, tu fais partie de son peuple, de sa famille. Il t'appelle frère, sœur, et il te montre le chemin du Père. Confirmé par cette parole, tu es mon enfant bien-aimé. Et sache que cette parole, si tu la vis, va te recréer, va te mener au-delà de tes capacités humaines. Tu vas aller plus loin que ce que tu aurais pu par toi-même, par ta bonne volonté, par tes bonnes résolutions, etc. Ne le levant au ciel par ses bonnes résolutions, par ses bonnes actions. C'est d'abord Dieu qui vient nous chercher, qui vient nous rappeler que notre itinéraire est un itinéraire qui ne peut se comprendre que par l'amour. Et à cause de cela, c'est du neuf. Il n'y a plus rien passe le découragement, tu es aimé de Dieu. Et il a tracé un chemin à travers le désert, un chemin à travers la violence, un chemin à travers toutes les misères du monde.